Voici la traduction d'une conférence sur la guérison divine donnée par Curry Blake, responsable du ministère de John J. Lake aux États-Unis. Session 14 sur 19. Alors, j'aimerais à ce moment-ci continuer à répondre à quelques questions. Donc, la première question concernant le fait que l'apôtre Paul, la Bible dit qu'il a laissé Trophime malade. Alors, pourquoi est-ce que Trophime n'a pas été guéri? Alors, ici, si nous regardons dans le texte original en grec, le mot qui a été utilisé ici pour malade, alors nous réalisons que le terme est un terme très général. Qui ne veut pas nécessairement dire précisément la maladie ou l'infirmité. C'est un mot même qui a été parfois utilisé en référence à une faiblesse physique. Nous savons selon les textes que il avait travaillé très fort au service de l'Évangile, peut-être même jusqu'au point d'un épuisement, en fait un épuisement total. Alors oui, nous avons évidemment la promesse de guérison. Et cela est inclus dans l'expiation. Mais il ne nous est jamais dit que nous serons épargnés des fatigues qui sont reliées au travail. Et même s'il s'agissait d'une maladie, je crois que ce texte est dans les Actes au chapitre 20, on dit que Trophime a rencontré Paul, c'était vers la fin du ministère de Paul. Et lorsqu'on pense à quelqu'un comme Trophime, qui travaillait très fort au service de l'Évangile, alors oui, il est possible d'en venir à un épuisement physique. Et à ce moment-là, tout ce qui est nécessaire, c'est de se reposer afin de récupérer. Et apparemment, c'est ce qui s'est produit avec Trophime. Alors les gens vont ajouter, oui, mais Paul l'a laissé seul dans cette condition et que Paul ne l'a pas guéri. Alors vous ne pouvez pas guérir la fatigue. Vous pouvez simplement vous reposer. Et au même moment, on pourrait prendre l'exemple, si nous allions dans une épicerie qui est ouverte pendant 24 heures, et nous pourrions aller même prier pour les gens là, et à moins que je les voie guéris droit devant moi, alors je me rendrai vers la caissière, donc je paie pour les trucs que j'ai achetés, et si je quitte l'endroit après avoir prié pour cette personne il y a quelques instants, et si je te voyais le jour suivant, et vous me demandez, avez-vous prié pour telle ou telle personne dans cette épicerie? Oui, je pourrais vous répondre, oui, j'ai prié pour lui. Alors, il me demande, que s'est-il passé? Alors là, ma réponse, évidemment, serait conséquente à ce que j'ai compris du résultat à ma prière. Et si je m'en tiens à ce que j'ai vu, alors je devrais vous répondre que j'ai laissé cette personne malade à l'épicerie. Mais si je crois la Bible, je vais vous dire que j'ai imposé les mains à cette personne et il va guérir, n'est-ce pas? Et lorsque j'arrive à la maison, je devrais dire à mon épouse, j'ai laissé la personne malade derrière moi à l'épicerie. Mais vous pouvez aller à la même épicerie 5 minutes plus tard et découvrir que cette personne est guérie, parce qu'il n'a pas été guéri immédiatement après mon départ. Et personne n'aurait pu m'en informer. Alors nous devons nous souvenir que ce que nous lisons dans l'Écriture sont des lettres qui ont été écrites, qui parfois ont pris même des mois à atteindre les gens à qui la lettre était destinée. Trophime aurait même pu gué être guéri et très bien le lendemain du départ de Paul s'il s'agissait d'une maladie. Et parce que cela n'est pas écrit dans l'Épître, alors nous ne pouvons pas affirmer cela. Vous ne pouvez pas non plus affirmer qu'il est demeuré malade, parce qu'il n'y a rien qui nous dit cela non plus. Ce que nous savons par contre dans les Actes des Apôtres, c'est que plus tard, Trophime allait très bien. Alors oui, il a été guéri. Il a une autre question ici concernant Timothée. Alors, on fait référence au problème d'estomac de Timothée. Alors, vous savez qu'est-ce que Paul lui a répondu. Et les gens posent toujours la même question à ce sujet-là. Les gens dans l'Église ou en dehors de l'Église, peu importe. Alors, si je demande à ces personnes cinq versets de la Bible qui vous parlent de la guérison et qui vous garantissent la guérison. La plupart des gens ne peuvent pas citer cinq versets de la Bible concernant la certitude d'être guéri. Mais par contre, si on ouvre le sujet de la guérison avec des chrétiens, alors ils connaissent le récit de Trophime et ils connaissent le problème avec l'estomac de Timothée et ils vont vous parler de Job. Alors cela devrait nous révéler quelque chose. C'est que nous sommes imprégnés dans l'incrédulité plutôt que dans la foi. Ça, c'est l'esprit du monde. Alors, le fait que vous connaissiez si bien ces versets de la Bible, les cas de Timothée et de Trophime, devrait vous dire que la réponse que vous vous attendez n'est probablement pas correcte. Et le diable vous a déjà convaincu que la guérison n'est pas pour aujourd'hui. Alors, répondons à cette problématique. Alors, combien d'entre vous ont travaillé ou ont voyagé outre-mer? Et précisément dans des pays en voie de développement. Et combien d'entre vous ont bu de l'eau dans ces pays-là? Alors, combien de vous ont ressenti des effets négatifs suite à cette eau-là? Alors, vous savez maintenant pourquoi Paul a écrit cela, Timothée. Parce que vous pouvez voyager et aller dans plusieurs pays du monde. Et il y aura du vin dans chacun de ces pays-là. Et Paul n'a pas dit à Timothée de se saouler, mais il a dit d'en prendre un peu. Et le but était justement pour amener du soulagement dans son estomac. Alors voici ce que cela veut dire. Peu importe où vous allez, la première chose que les gens vont nous dire, « Oh, ne buvez que de l'eau en bouteille », n'est-ce pas? Première chose que les gens nous disent. Mais de ne pas boire l'eau d'un pays où nous allons, surtout les pays en voie de développement. Parce qu'il y a des bactéries dans cette eau-là qui vont tout simplement nous causer des nausées, des maux d'estomac et divers problèmes. Alors, si vous prenez un petit peu de vin et que vous versez un peu de ce vin dans de l'eau, alors cela va tuer les germes qui sont dans l'eau. Alors, Paul, un missionnaire, était en train de dire à Timothée, qui est aussi un missionnaire, et qui était dans un autre pays, Paul lui disait, « Je comprends ta situation. Ne fais pas que boire de l'eau. Prends du vin avec. Cela va tuer les bactéries, et cela ne t'affectera plus. » N'est-ce pas étonnant que Paul soit un homme pratique? Nous croyons que tout ce que Paul a dit était des choses super spirituelles. Et pourtant, nous savons que ce n'est pas vrai. Parce que Paul a écrit toutes sortes de choses qui sont très pratiques. Il a dit à des jeunes hommes de fuir les passions de la jeunesse. Et tout à coup, il se tourne et dit à Timothée d'emmener son manteau et ses livres parce qu'il les a oubliés. Alors, quelle est la spiritualité dans cela? Il a écrit des lettres très pratiques aussi. Qu'est-ce que nous faisons? Parce que la Bible ne nous donne pas tous les détails. Alors, nous amenons toutes sortes d'interprétations qui ne sont pas conformes au contexte. Donc, il y a même certains commentateurs de la Bible qui n'ont jamais été missionnaires et qui n'ont aucune notion du travail missionnaire en d'autres pays, vont tout simplement utiliser ces passages pour tenter d'indiquer que la maladie est quelque chose qui est acceptable ou que Paul ou quoi que ce soit ne pouvait pas être guéri de telle ou telle maladie. Mais n'importe lequel missionnaire peut comprendre ce texte-là. C'est simple. Et il y a d'autres questions auxquelles j'aimerais répondre, mais ce sera dans une autre session. Mais avant tout cela, j'aimerais quand même revenir quelques moments sur une question qui a déjà été posée. Et cette question au sujet de est-ce que Dieu utilise la maladie pour nous châtier? Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, on nous dit que la parole de Dieu est notre lumière. Et notre guide, il nous enseigne et nous devrions bien la connaître. Sa parole est aussi appelée la houlette et le bâton de Dieu. Et nous croyons que Dieu utilise la maladie pour nous châtier. Si c'est ce que nous disons, alors nous attribuons à Dieu une caractéristique qui ne lui revient pas. L'apôtre Paul a dit, nous devons comparer les choses naturelles avec les choses naturelles et les choses spirituelles avec les choses spirituelles. Alors, lorsque vous commencez à faire des comparaisons entre les choses naturelles et mélangées avec les choses spirituelles, alors là, il y a des problèmes. Alors, Dieu est esprit et nous-mêmes aussi sommes des êtres spirituels. Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Et il est écrit, ta parole est la vérité dans les psaumes. Et lorsqu'il a mentionné que la parole de Dieu est la houlette et le bâton, dans le texte hébreu, dans l'épître aux Hébreux, il est dit que Dieu est le Père des esprits. Alors le Père des esprits va châtier l'esprit et non la chair. Comprenez cela? Et châtier veut dire autre chose souvent que frapper et battre. Mais la traduction littérale de ce mot est celle-ci, d'instruire, de discipliner. Alors lorsqu'on pense à la discipline, et nous avons l'image d'un père qui prend son enfant par la main, et dans l'autre main, il a une ceinture, et nous allons corriger notre enfant avec la ceinture. Et vous associez ça à la discipline. Mais vous devez vous souvenir qui était Paul lorsqu'il a écrit ces mots. L'exemple que Paul utilise très souvent, c'est un soldat, un athlète. Alors, qu'est-ce qu'un soldat et un athlète ont en commun? Alors, ce sont des individus qui connaissent la discipline. Et vous voyez ici la différence dans l'utilisation du mot. Alors, vous n'allez pas prendre une ceinture pour battre un soldat. Alors, vous n'avez pas à battre un athlète pour le discipliner. Mais vous allez l'aider dans son entraînement. Ce qui veut dire que vous allez l'aider à centrer ses efforts vers un seul but. Et cela veut dire que nous allons créer en lui cette volonté de gagner et la volonté de continuer sans s'arrêter. Et voilà une signification correcte du mot discipline. Et le mot utilisé, tel qu'on l'a vu, veut dire instruire ou même entraîner. Alors nous devrions penser à la discipline de Dieu comme une action pour nous entraîner, une action pour nous faire grandir, pour nous aider à atteindre le but, pour nous amener une discipline dans notre vie, et qui fera de nous des soldats courageux pour le Christ Jésus. Et cela va nous rendre capables d'endurer l'épreuve et de traverser les difficultés comme un bon soldat. Alors, comment Dieu opère-t-il cette action de discipline pour nos vies? Dieu est esprit, il est le Père des esprits, nous sommes un être spirituel, et Dieu utilise sa parole qui est esprit pour nous instruire, pour nous discipliner et pour nous former. En aucun endroit dans le Nouveau Testament, il n'y a de référence claire et précise au fait que les maladies et les infirmités sont utilisées par Dieu pour nous instruire et nous amener à une bonne discipline. Cependant, que faisons-nous? Dans l'Église, nous avons développé une théologie qui est établie sur l'échec. Non pas une théologie fondée sur la Bible. Qu'est-ce que vous voulez dire par cela, vous me dites? Cela veut dire que lorsque nous prions pour quelqu'un et qu'ils ne sont pas guéris, que faisons-nous? Nous devons trouver une raison. Que faisons-nous? Alors nous allons en créer une. Nous allons créer une fausse doctrine qui va valider notre expérience et même aux dépens du nom de Dieu, de sa nature et de son caractère. Si Dieu nous visiterait dans la chair, il pourrait facilement gagner toute tentative dans une cour de justice et toute attaque qui ont été lancée contre lui au niveau de sa nature et de son caractère. Nous accusons Dieu de choses pour lesquelles nous serions prêts à envoyer un homme derrière les barreaux à cause de ce qu'il a fait. Mais parce qu'il est Dieu, nous croyons que Dieu peut agir de telle manière et tout sera bien. Et nous ne réalisons pas quelle loi nous avons pour protéger un innocent. Ces mêmes lois que nous utilisons dans nos cours de justice pour protéger ceux qui sont faussement accusés sont même basées sur la Bible, la parole de Dieu. Les lois que nous avons ici pour protéger les innocents ne nous viennent pas du Coran, ni des écrits de Bouddha ou de Confucius. De ces gens-là, nous avons obtenu de la philosophie, mais nous avons puisé de la parole de Dieu nos lois qui protègent les innocents dans notre société. Alors imaginez, lui qui est Dieu, qui est le créateur de ces lois, qui est bon, qui est amour, et nous osons accuser Dieu de toutes sortes de faussetés. Et nous continuons à diffamer sa nature et son caractère. Dieu nous a donné plusieurs noms pour révéler qui il était. Jéhovah Tsidkenu, Jéhovah Jiré, Jéhovah Rapha, et tous ces noms hébreux qui révèlent le caractère de Dieu et par lequel Dieu s'est laissé connaître. Et c'est comme si Dieu nous disait, « Lorsque vous parlerez de moi, j'aimerais que vous sachiez que je suis le Dieu qui pourvoit. » Et il a dit encore, « Lorsque vous parlez de moi, j'aimerais que vous sachiez que je suis le Dieu qui te donne la justice. » Et encore, Dieu va dire, « Lorsque tu parles de moi, j'aimerais que tu me connaisses comme le Dieu qui te guérit. » Alors, si Dieu est le Dieu qui nous donne les maladies, alors pourquoi Dieu ne nous a pas dit, « Je veux que tu me connaisses comme le Dieu qui te rend malade ou qui va te tuer. » Il n'a jamais fait cela. Et si Dieu ne nous a pas donné ce trait de caractère de sa personne, alors nous n'avons pas le droit de lui attribuer ses attributs. Nous devons être des gens qui connaissons bien Dieu et qui connaissons bien qui il est, sa nature, son caractère, ses attributs. Et même cela va vous aider à prier pour les malades. Il est bien important de transformer notre pensée si nous avons encore l'idée que Dieu est celui qui rend les gens malades. Vous devez connaître qui est Dieu. La Bible dit que Jésus allait partout faisant le bien. Et souvent, lorsque nous prions, nous disons, nous faisons de telles prières. « Ô Seigneur, guéris-les, s'il te plaît, si cela est ta volonté. » Premièrement, cette prière-là, vous l'avez apprise de quelqu'un d'autre. Et ces gens-là ont appris cette prière de quelqu'un d'autre. Et quelque part, dans cette lignée, quelqu'un a eu cette prière en s'inspirant du moment où Jésus était dans le jardin de Gethsémané et il priait le Père en disant, « Père, si c'est ta volonté, enlève cette coupe de moi, éloigne cette coupe de moi. » Et nous avons adopté cette prière et définitivement, ce n'est pas une prière pour la guérison des malades. C'est une prière de consécration, c'est une prière d'abandon à la volonté de Dieu. Et vous devez bien comprendre la raison pour laquelle Jésus priait cette prière. De manière générale, vous ne pourrez jamais prier dans la foi si vous ne connaissez pas bien la volonté de Dieu. Vous n'aurez jamais plus de foi que votre connaissance de la volonté de Dieu. Si vous n'êtes pas certain que telle ou telle chose est la volonté de Dieu, alors vous ne prierez jamais une prière de foi. Alors à partir du moment où vous incluez le mot « si » dans votre prière, vous enlevez complètement du royaume de la foi et vous tombez dans le domaine de l'incrédulité. Ce n'est plus à ce moment-là une prière de foi, c'est une prière d'espoir. Alors si Nous avons seulement l'espoir que la prière que Dieu répondra à cette prière-là. Il n'y a aucune promesse qui nous dit que Dieu va répondre à la prière d'espoir, mais plutôt à la prière de foi. Alors, vous continuez à faire ce genre de prière avec cette fausse théologie. Et évidemment, la personne n'est pas guérie, elle va peut-être même mourir. Et finalement, vous vous dites tout simplement, en baissant les bras, « Alors voilà, ça c'était la volonté de Dieu, qu'elle demeure malade ou qu'elle meure. » Le Seigneur Jésus, à un certain moment, était à l'écart, un peu à l'écart de ses disciples. Et un homme lui a amené son fils. En fait, l'homme l'avait apporté aux disciples auparavant. Et à cette époque-là, les disciples étaient en train d'avoir un débat, peut-être même un peu de querelle, à savoir qui était le plus grand parmi eux. Alors, il y avait tout un arrière-plan, ce récit-là. Et si nous prenons l'interprétation que Paul donne d'une telle attitude, alors nous pourrions dire que les disciples, à ce moment-là, étaient très charnels. Alors, ce n'est pas étonnant qu'il n'y ait eu aucun résultat à leur prière pour le jeune garçon malade. Alors, ils ont essayé de chasser le démon hors de l'enfant et rien ne s'est produit. Alors, l'homme est allé vers Jésus et en lui disant, j'ai amené mon fils vers tes disciples et ils n'ont pu rien faire pour l'enfant. Alors, arrêtons-nous là un moment. Alors, mettons-nous pour un instant à la place des disciples. Et quelqu'un amène un malade et vous avez entendu l'enseignement que je vous ai donné et vous êtes anxieux de prier pour le jeune enfant. Alors vous priez, et lorsque vous avez terminé, rien ne s'est passé. L'enfant a toujours son problème. Alors lorsque le père a parlé de la situation de son enfant à Jésus, alors lui a répondu, Jésus a répondu, amène-moi l'enfant. Et nous savons ce qui s'est passé. Il a amené l'enfant vers Jésus, et Jésus a guéri son fils. Même si l'homme avait dit, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et l'enfant avait un démon. Il n'a jamais parlé, il n'a jamais montré aucun signe de foi. Et son père a parlé à Jésus au niveau de la foi. Et ce qu'il avait à dire au Seigneur, c'était, viens au secours de mon incrédulité. Alors dans l'Église, nous aurions dit à cet homme, tu n'auras rien, parce que tu prétends avoir la foi, mais tu viens de dire que tu es incrédule. Et à cause de ton incrédulité, on ne peut rien faire pour toi. Alors, nous savons évidemment, à cause de ce récit, qu'il ne s'agissait pas là d'une récompense à cause de la foi de cet homme-là, et encore moins de la foi de son enfant. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce que Jésus a dit, as-tu amené l'enfant vers mes disciples? Il n'a même pas dit cela. C'est l'homme qui a avisé Jésus de cela. Alors, si, suite à l'annonce de ce que l'homme avait dit à Jésus, alors j'ai amené l'enfant vers tes disciples et rien ne s'est produit. Alors Jésus aurait très bien pu lui répondre, alors voilà, sinon, si le démon n'est pas sorti ou la maladie n'est pas guérie, voilà, c'est parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ils ont prié, rien ne s'est produit, alors Dieu ne veut pas le guérir. Est-ce que Jésus a dit cela? Bien sûr que non. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est adressé aux disciples et il leur dit, homme sans foi, génération perverse. Il a même ajouté, jusqu'à quand je vais devoir demeurer avec vous? Alors ça, je vous assure que ce n'était pas des paroles très gentilles. Il n'y avait pas grande tendresse dans les paroles de Jésus, là. Et par la suite, il a chassé le démon. Et le gamin était guéri. Alors qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ce récit? Ce n'est pas parce que les disciples n'ont pas réussi à aider le jeune homme à chasser le démon et à guérir sa maladie. Cela ne signifie pas que c'est la volonté de Dieu que le jeune homme reste malade. Mais que faisons-nous dans l'Église? Si nous essayons et nous prions et que rien ne se produit, que faisons-nous? Immédiatement, la première chose que nous disons, ah, ce n'est pas la volonté de Dieu. Que devrions-nous dire? Oh, je crois que je n'ai pas beaucoup de foi. Alors nous ne voulons pas être honnêtes et prendre sur nous la responsabilité. Nous voulons mettre la responsabilité sur le jeune garçon. Ah, peut-être qu'il a des péchés cachés. Ou peut-être que son père a des péchés cachés. Oh, sans doute ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il soit guéri. Vous comprenez? Alors oui, ça c'est un grand péché. Toujours placer la faute sur les autres. Alors c'est la faute du malade, c'est la faute du papa, ou c'est la faute de Dieu. Mais non, ce n'est certainement pas moi. Ce n'est pas de ma faute ni ma responsabilité. Parce que moi, je suis parfait. Vous voyez où est le problème là? Nous avons une théologie de l'échec. Et Jésus, de son côté, n'a jamais accepté l'échec. Et lorsque les disciples ont échoué, Jésus n'a pas essayé même de les excuser en leur disant, OK les gars, voilà, ne vous en faites pas trop, vous avez quand même essayé. Il y aura des victoires, il y aura des défaites. Ne vous inquiétez pas, parce qu'après tout, si le garçon avait été guéri, peut-être que vous seriez devenu orgueilleux. Et Dieu est si concerné par vous, vous êtes tellement important que Dieu préfère que l'enfant demeure malade et que plutôt que ce que l'enfant soit guéri, que vous deveniez orgueilleux. Alors, il est préférable qu'il demeure comme ça. Voyez-vous à quel point cette manière de penser peut être ridicule? Et voyez-vous à quel point nous sommes arrogants en pensant de cette manière? Nous allons dire aux gens que si cette personne demeure malade, c'est parce que je ne dois pas devenir orgueilleux. J'ai une parole pour vous. Trop tard. Si vous dites cela, vous êtes déjà dans l'orgueil. Parce que vous êtes déjà en train de me dire que vous êtes plus important que cet enfant. Vous êtes en train de me dire, je ne veux pas être un serviteur. Je suis si important que cet enfant-là n'a aucun droit d'avoir une vie libre et en santé, afin que je ne devienne pas un orgueilleux. Oh, vous les pharisiens arrogants, vous avez besoin de vous analyser un peu. Si cela était vrai, alors Paul n'aurait jamais pu écrire ce qu'il a écrit. Et Paul a dit, je garde mon corps sous discipline. Je me garde discipliné parce que je ne veux pas être mis de côté par Dieu après que j'aurai couru ma course. Qu'est-ce que Paul voulait dire par cela? Alors Paul disait qu'il était très soucieux de la manière dont il vivait sa vie sur terre parce qu'il ne voulait pas seulement prêcher l'Évangile et guérir les malades et ressusciter les morts et faire des miracles. Et seulement pour voir Dieu par la suite me renier ou me mettre de côté. Alors Paul n'aurait pas pu écrire cela si notre théologie est bonne, parce que Dieu n'aurait jamais permis à Paul d'accomplir tous ces miracles, selon notre théologie. Alors selon notre théologie, Paul aurait probablement écrit quelque chose comme ceci. Alors je dois vraiment veiller sur moi-même et me garder discipliné pour remporter le prix de la course ou sinon Dieu va carrément m'enlever mon ministère. Et s'il avait écrit ces choses, cela signifierait qu'il se voyait ou il se croyait plus important que les gens à qui l'Évangile était destiné. Non, au contraire, ce que Paul nous dit là, c'est que Dieu veut utiliser, Dieu voulait l'utiliser, Dieu l'a utilisé pour guérir les malades, pour prêcher l'Évangile et pour faire des miracles. Et Paul savait que s'il ne veillait pas sur lui-même et sur son ministère, il pouvait se voir enlever le prix de la course et de la vocation céleste. Alors, il était très, très, très conscient qu'il y aurait une récompense et qu'il y aurait un prix pour sa course, qu'il y aurait à la fin de son parcours une récompense que Dieu lui accorderait pour avoir aimé les gens suffisamment pour être allé vers eux et évidemment leur annoncer l'Évangile et amener la guérison telle que Dieu le veut. Donc, il était peu concerné par l'idée de, par exemple, que Dieu ferme son ministère ou que Dieu arrête son ministère. Non, Paul comprenait que Dieu avait un tel amour pour les gens qu'il devait garder sa vie disciplinée afin d'être un bon outil dans la main de Dieu par amour pour les gens à qui était destiné l'Évangile et la guérison. Et de cette manière, il recevrait le prix de la course, la récompense que Dieu lui réservait à la fin de son parcours. Alors, en tant qu'enfant de Dieu et en tant que prédicateur, nous sommes tous d'accord que nous devons être des gens transparents. Et si je vous révèle quelque chose, allez-vous avoir une opinion différente de qui je suis? Lorsque, je vais vous avouer quelque chose, lorsque j'ai commencé à prier pour les gens, il y avait du péché dans ma vie. Je le savais, ma famille le savait, c'était très apparent, et pourtant Dieu m'utilisait pour guérir des malades et même des malades en chaise roulante. Après la rencontre, j'allais prier et j'étais même fâché après Dieu parce que les gens étaient guéris et il y avait du péché dans ma vie, et je le savais, et j'allais vers Dieu. Et je disais à Dieu, est-ce que tu n'es pas au courant de qu'est-ce qui se passe avec moi? Est-ce que tu n'es pas concerné que j'ai ces péchés dans ma vie? Est-ce que le péché ne t'affecte pas du tout? Parce que les gens étaient guéris quand je priais pour eux. et Dieu m'a parlé, probablement avec la voix la plus claire que j'ai jamais entendue venant de Dieu. Et savez-vous qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, oui, je sais qu'est-ce qui se passe dans ta vie et je vais m'occuper de toi plus tard. Et immédiatement, un désir pour la sainteté est venu habiter dans mon cœur. Et là, les péchés ont commencé à me quitter. Alors, vous voyez, les choses que je vous dis, ce n'est pas de la théorie. Je les ai vécues. Je les pratiquais. Et le ministère de guérison a été prouvé. Et ce ministère de guérison va aussi vous accompagner dans votre vie. Gloire à Dieu, nous n'avons pas besoin d'être parfaits avant que Dieu nous utilise pour aider les gens qui souffrent. Pourquoi devrait-il vous utiliser? Parce que vous connaissez quelque chose que eux ne savent pas. Vous savez que Dieu peut les guérir et vous savez que Dieu veut les guérir. Et vous vous oubliez vous-même et vous allez de l'avant et commencez à tendre la main et à aider les gens. Prenons une pause.